Que ce soit dans les résultats électoraux des européennes ou dans les intentions de vote pour les législatives à venir, une question se pose. Comment expliquer le désintérêt des électeurs pour la question environnementale ? Alors pour nous éclairer, Swazik, vous faites un point sur les travaux de Mélusine Boonfaller, doctorante en sciences cognitives à l'École normale supérieure. Et vous nous dites que pour rendre un sujet accessible et mémorable, il faut nécessairement le ramener à une échelle humaine.
Et oui Margot, parce que en effet, notre cerveau est bien meilleur pour se représenter des petites quantités et faire des calculs simples. Par exemple, dire que l'empreinte carbone moyenne en France est de 10 tonnes équivalent CO2 et qu'il faut la réduire à 2 tonnes pour que le réchauffement climatique ne dépasse pas 2 degrés, eh ben c'est bien plus parlant que d'évoquer les 384,5 millions de tonnes d'émissions nationales. Et puis, notre cerveau a besoin d'images pour rendre le problème concret. Alors, pour responsabiliser les consommateurs, comme les entreprises, eh bien, par exemple, il faut des labels de type Nutri-Score et qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants. Parce qu'en effet, par exemple, Margot, quand vous dévorez un steak, eh bien, vous ne voyez pas un nuage de CO2 s'en échapper. Et pour notre cerveau, le lien est donc difficile à faire. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Nous avons donc un besoin d'images intelligibles par le cerveau, comme par exemple parler du CO2 comme d'une couverture épaisse qui enveloppe la Terre et nous réchauffe au-delà du supportable, comme une grosse couverture en plein été, ou encore comparer l'élévation de 1 degré de la température terrestre à un corps humain à 38 degrés au lieu de 37. Et nous avons aussi besoin de vraies images montrant les conséquences du dérèglement climatique, comme par exemple en ce moment, celle de l'Inde ou de Riyad, où des milliers de personnes meurent littéralement de chaud.
Donc vous nous dites qu'il faut comprendre et intégrer le changement climatique, mais comment se sentir poussé à agir alors ?
Eh bien parce que, effectivement, l'information ne suffit pas pour changer nos habitudes. Tout le monde sait que c'est pas bon de fumer et il y a encore des fumeurs. Alors, nous sommes motivés à agir si trois conditions sont réunies, nous dit Mélusine. D'abord, si un risque est imminent et qu'il nous affecte personnellement. Or, la crise climatique est souvent présentée comme un problème dans le futur, dans des régions lointaines et sans conséquences directes du type la disparition des ours polaires en 2100. Eh bien non, il faut parler des pénuries d'eau courante, de la hausse des prix de l'alimentation ou des morts liées aux vagues de chaleur. C'est ça qui marque les esprits, c'est éco-anxieux, mais il n'y a pas d'autre solution. Et puis il faut aussi que nous percevions l'efficacité de notre changement de comportement. Si nos efforts ne servent à rien, évidemment, nous ne faisons rien. Or, pour motiver les gens à passer à l'action, il est essentiel de montrer que chaque action compte. Non seulement les actions du gouvernement, mais aussi l'engagement individuel du tri des déchets à l'usage de la voiture ou de l'avion, ce qu'on appelle la sobriété finalement. Et puis le troisième problème, c'est celui de ce que les économistes appellent le passager clandestin, c'est-à-dire la tentation de laisser les autres faire les efforts tout en sachant que nous bénéficierons de la réduction des émissions de carbone. Alors, pour ne pas adopter ce comportement égoïste, eh bien, les gens doivent avoir suffisamment de preuves que les autres agissent dans le bon sens, ce qui crée un effet d'entraînement. Il faut donc mettre en valeur celles et ceux qui ont changé leurs pratiques pour offrir des modèles vertueux. Je pense par exemple à Chaka Ponk qui milite pour un showbiz responsable, quitte carrément, disent-ils, à arrêter la scène.
Mais là, Swazik, vous nous parlez d'action individuelle, mais l'État là-dedans, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a également un rôle à jouer ?
Oh que si ! Et pour cela, deux éléments sont indispensables. Tout d'abord, la confiance dans les institutions. Des campagnes d'information doivent expliquer les actions entreprises par l'État, leurs coûts, mais également leurs avantages pour ne pas faire de l'écologie punitive. Comme par exemple, le lien entre un passage à 110 km/h sur les autoroutes et l'amélioration de la qualité de l'air et les bienfaits sur la santé. Mais attention, pour mener à bien ces politiques, l'équité doit rester primordiale, que ce soit dans le partage des ressources ou la diminution de la consommation qui doit d'abord être l'affaire des plus riches. Sinon, adieu la démocratie. Enfin, l'État doit être exemplaire. Il ne peut pas demander des efforts aux citoyens si lui-même ne montre pas les bonnes pratiques. Alors vous comprenez le problème, quand nos ministres assument fièrement leur déplacement en France en jet privé, c'est plutôt énervant et surtout contre-productif. Vous voyez Margot, quand on mesure l'écart entre ce qui est fait et ce qui devrait l'être, eh bien ne nous étonnons pas que l'écologie ait totalement disparu des préoccupations des électeurs. Et ce n'est pas en se focalisant sur la dette publique ou des chômeurs trop payés qu'on va s'en sortir.